le show du matin. 95.7 Kick Saguenay. Avec Dominique Fortin, Martin Thomas Côté et Tania Clouston.
Il est 7h33. Hier, la protectrice du citoyen a remis son rapport concernant les CHSLD au Québec. Et il y a là-dedans, il y a des faits. Là. Le gouvernement a bien beau dire depuis des semaines et martelé qu'on a tout fait. Dès janvier, on a avisé les CHSLD qu'on devait se préparer à la pandémie. Mais il reste que ce qui ressort et ce qui est ressorti publiquement de ce rapport-là, dans les grandes lignes, puis ça a été relaté par tout le monde, là, c'est que ça, il a fallu attendre à la deuxième semaine, puis à la deuxième portion du mois de mars, avant que vraiment on prenne, sans dire prenne conscience des dangers, qu'il y ait un petit peu plus de travail qui se fasse en CHSLD, parce qu'on a vraiment mis l'emphase sur les hôpitaux, et ça me semble clair, net et précis. On va en parler avec Mme Hélène Vallière, qui est vice-protectorat, donc vice-protectrice du citoyen, affaires institutionnelles et prévention. Mme Vallière, bon matin.
Bonjour, M. Fortin.
Tout d'abord, j'entends le message du gouvernement. Vous l'entendez assurément aussi en conférence de presse depuis deux semaines, nous dire qu'on avait commencé dès janvier à préparer les CHSLD, mais ça me semble clair dans les analyses, dans les entrevues, dans tout ce que vous avez fait comme travail, que ce n'était pas ça.
En fait, si on peut situer là, vos auditeurs dans le temps, là, si on se reporte à la fin janvier 2020, les préparatifs qui sont mis en branle, c'est les instances de sécurité civile. Donc, on met en branle des instances un peu générales pour se préparer à une future pandémie. Donc, on parle de dépistage, on parle d'équipement, les fameux masques. On tente de faire l'inventaire là, de ce qu'on a comme matériel à ce moment-là. Donc, c'est des préparatifs qui sont de nature générale. Et vers le mois de février, début mars, on anticipe ce qui se passe en Italie. On regarde ce qui se passe en Italie, puis en Italie, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que les hôpitaux sont débordés. Ils peinent à répondre là, à tous les patients qui se présentent. Donc, au Québec, on craint ça beaucoup. Donc, on mise sur vraiment la préparation de la capacité hospitalière. On essaie de libérer des lits dans les hôpitaux. Donc, c'est vraiment le focus qui a été mis de l'avant. Donc, vraiment tous les travaux préparatifs, là, en février et même début mars, là, vise à libérer des places dans les hôpitaux. Ce faisant, par exemple, on va organiser le transfert de patients qui sont hébergés dans les hôpitaux pour les amener en CHSLD pour libérer de la place. Et on n'évalue pas à ce moment-là adéquatement les risques que ça présente pour les CHSLD. On n'évalue pas l'impact que ça pourrait avoir de transférer autant de patients dans ces milieux-là. Les risques autant au niveau de la propagation des infections, parce que les patients transférés ne seront pas testés. On n'évalue pas non plus la capacité en termes de main-d'œuvre. On sait que les CHSLD sont déjà à court de personnel, surtout dans cette période-là, au retour de la semaine de relâche. Là, en temps normal, il y a déjà des services dans certains CHSLD. Donc, on n'évalue pas l'impact de ça et on organise quand même le transfert des patients.
Dire, est-ce que le fait que l'on transfère vers les CHSLD, c'est qu'on ne considère pas à ce moment-là les CHSLD comme des mini-hôpitaux? On les considère plutôt comme des milieux de vie, donc on n'a pas la même attention sur ces établissements-là. C'est ce que je comprends.
Exactement. En fait, c'est la vision normale. Là. Les CHSLD sont considérés comme des milieux de vie et pas comme des milieux de soins à proprement parler. Alors que pendant la pandémie, c'est ce qu'on va leur demander. On va leur demander vraiment de devenir des milieux de soins intenses, actifs, comme dans les hôpitaux, même qu'on donne on leur donne à l'EMIMAS une consigne de ne pas transférer les patients vers les hôpitaux, là, donc de les garder en CHSLD et de leur donner les soins sur place. Mais ce faisant, à la mi-mars, on ne leur donne pas les moyens pour faire ce changement de pratique-là auquel ils n'étaient pas nécessairement habitués. Donc, c'est vraiment les placer dans une situation difficile à ce moment-là parce qu'ils n'ont pas l'équipement, ils n'ont pas suffisamment d'équipement, ils n'ont pas suffisamment de personnel, ils n'ont pas de personnel spécialisé non plus là, en contrôle des infections et ils n'ont pas de support nécessairement là, adéquat en termes de soins infirmiers. Donc, c'est vraiment les placer dans une situation difficile.
Ouais, je lisais, et je ne sais pas si c'est une mauvaise interprétation, mais que le gouvernement prenait pour acquis que les CHSLD était habitué de gérer les éclosions de grippe, de gérer les éclosions de gastro, et ce faisant, il allait probablement être capable de gérer des éclosions de COVID-19.
Oui, ben oui, on a pris pour acquis qu'ils étaient habitués hein, de faire face à des éclosions. Ça démontre un peu une méconnaissance de la réalité du terrain. Là. Puis c'est ce qu'on hésite de souligner. Là. On savait pas à quel point dans certains, puis c'est pas tout là, dans certains CHSLD, on n'avait pas les pratiques de prévention contrôle des infections bien implantées, entre autres en raison de la concentration des fonctions des infirmières spécialisées là. Avec la réforme, on a concentré ces fonctions-là, donc il y avait moins de disponibilité dans certains CCSIUS. Il y a un roulement de personnel important, de sorte que le personnel n'a pas nécessairement toute la formation. Donc, c'est vraiment le décalage entre ce qui se passe sur le terrain puis l'information que le ministère avait à ce moment-là. Il faut reporter aussi qu'en janvier, mars 2020, nos connaissances sur le virus n'étaient pas aussi avancées que maintenant. On ne savait pas nécessairement à quel point le virus se propageait rapidement. On pensait que ça allait être comparable à l'influenza, mais bon, c'était pas clair encore. Là. Et c'est un peu dommage parce que dans d'autres provinces, on s'est rendu compte que, par exemple, en Colombie-Britannique, eux, ils ont donné des consignes très spécifiques. Là, dès la mi-mars, là, ils ont soutenu très spécifiquement les milieux de soins de longue durée. Donc, on se dit, ben, ils auraient été capables quelque part parce que si la Colombie-Britannique l'a fait, c'est parce qu'il y avait quand même suffisamment de connaissances pour préparer ces milieux-là à déplacer.
Mais encore, faut-il qu'il y ait des dirigeants puis des gestionnaires qui sont capable de livrer le message vers le gouvernement de ce qu'on a compris durant la crise, puis je ne sais pas si vous le relevez dans votre rapport, vous m'excuserez, je n'ai pas lu les 75 pages, là, j'en ai lu quelques extraits, là, mais il n'y avait pas de direction dans les CHSLD, il n'y avait, pas de boss.
Oui, on en parle effectivement là, de la structure hiérarchique des CIS et des CIUS qui est quand même assez lourde. Il y a 5 paliers décisionnels là, normalement avant d'arriver au coordonnateur de site. Là. Donc oui, c'est lourd. Et puis les directives étaient en mi-mars très générales. Donc il fallait vraiment les rendre opérationnelles sur le terrain. Puis n'ayant pas là, vraiment de gestionnaire sur place pour essayer d'intégrer toutes ces directives-là qui se sont mis à changer très rapidement en cours de pandémie. Là. Donc à chaque jour, il y avait des mises à jour, donc il fallait revoir les façons de faire. Donc c'était extrêmement difficile pour les CHSLD de mettre ça en œuvre en l'absence de capitaine, là, en l'absence de dirigeant là, pour coordonner tout ça.
Là, je veux que vous puissiez nous démêler. Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à la question. Je ne veux pas que vous puissiez faire de la politique. Ce n'est pas le but ce matin. Là. Mais c'est quoi l'histoire des rapports qui ont disparu? Là? L'opposition se sert beaucoup de ça depuis hier en chambre. Il y a une enquête du coroner qui est en parallèle à la vôtre. C'est quoi l'histoire des rapports qui ont disparu?
Je peux pas me prononcer s'ils ont disparu ou pas. Là, ça sera au ministère de répondre à cette question-là. On parle des rapports d'inspection qui ont eu cours à la mi-avril. Donc, à la mi-avril, là, le ministère prend conscience qu'il y a des éclosions. Ça va pas bien dans les CHSLD. Il veut avoir un portrait de situation. Parce qu'il n'avait pas l'information en temps réel. Ça a été un des problèmes majeurs. Pendant la crise, on savait pas ce qui se passait sur le terrain. Ça prenait du temps avant que l'information remonte au ministère. Alors, à la mi-avril, il dit, OK, je vais envoyer du monde dans les CHSLD pour voir ce qui se passe et faire la tournée pour voir c'est quoi l'état de situation. Où il y a des éclosions, où il manque de matériel, où il manque d'infirmières, pour vraiment avoir un portrait complet. Donc, c'est ces rapports-là qui ont été produits là, au cours du mois d'avril et jusqu'à de manière continue par après. Alors, écoutez, nous, on les a obtenus, ces rapports-là, mais là, je peux pas répondre pour le ministère de ce qui est arrivé avec ces rapports-là, mais ils existaient, là, donc, parce que nous, on les a eus en cours d'enquête.
OK. Mais en gros, ce qu'on peut comprendre, là, c'est que c'est tellement complexe, le monde de la santé, que tout, en fait, les ordres qui partent d'en haut, à mesure qu'ils descendent les étages, il change, puis rendu en bas, c'est plus du tout ce qui a été demandé en haut. Puis quand en haut demande des informations en bas, bien les informations partent puis ils remontent, mais ils se rendent pas jusqu'en haut. En gros, c'est pas mal ça.
Oui, c'est effectivement, c'est une grosse machine et en temps de crise, il faut agir très rapidement. Donc, ça prend de l'agilité, il faut être capable de mettre ensemble les gens qui ont la bonne expertise autour de la même table. Et c'est ça qui a manqué un peu au cours de la crise. Là. Les gens qui étaient responsables des CHSLD n'étaient pas autour de la table pour décider des orientations stratégiques au moment de la préparation de la crise. Et ça, ça l'a manqué. Donc, et ce qu'il faut apprendre de ça, là, c'est qu'il faut mettre en commun toutes nos expertises pour s'assurer que les canaux de communication circulent bien puis que le ministère ait de l'information du terrain, qu'il soit enraciné sur ce qui se passe là, sur le plancher de ces établissements-là, puis quelle information en temps utile pour prendre les bonnes décisions.
Madame Vallière, merci beaucoup de nous avoir parlé.
Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.
Donc, c'était la vice-protectrice du citoyen, Madame Hélène Vallière. C'est intéressant. Le rapport est super intéressant, puis sans dire qu'il contredit ce que le gouvernement nous dit, disons qu'il défait le spin, puis le gouvernement essaie de nous envoyer un spin, qu'on commence à se préparer en janvier, puis mais là, on ne connaissait pas le virus. Mais la réalité, c'est que le monde de la santé, d'abord, c'est un système informatique des années 20. Vous savez, c'est quoi un système informatique des années 20? Il n'y en avait pas d'informatique des années 20. Bon.
Non, je pensais que c'était par morse.
Ben, quasiment. Signaux de boucan.
C'est comme ça qu'on communiquait.
Et je pense que la meilleure image, notre collègue Patrick Lagacé qui l'a fait ce matin dans la presse, la meilleure image du monde de la santé, c'est un mammouth qui a tellement un gros corps qu'il ne voit pas son derrière.
Non, ça ressemble à ça.
Il ne voit pas son derrière.
C'est pas comme si on leur avait jamais dit. T'sais, moi, je me rappelle qu'en 2012, on a, toi et moi, fait des dossiers sur les CHSLD et sur la façon dont on gérait ça. Mais ça a tellement fait notre affaire longtemps de parquer des gens qu'on ne voulait pas voir dans des mini-hôpitaux en nous faisant croire qu'ils jouaient au bowling puis ils écoutaient des films. Là. Oui. Puis on s'est fermé un peu les yeux. On s'est un peu, nous-mêmes aussi, comme société, désengagés. Et quand la bête est arrivée là, au village, on a fortifié le village pendant que ces gens-là étaient dehors. Puis on leur a dit « Ah, vous autres, c'est pas inquiétant. Ils te mangeront pas pareil. C'est le village qu'il faut protéger. » Puis on les a laissés se faire bouffer tout rond.
Ben, en fait, c'est une méconnaissance des CHSLD, là. Ah, oh, ils sont habitués en contrôle des éclosions de rhume, puis de grippe, hein, puis de gastro, tout ça.
Mais on les a sacrifiés, on les a laissés là. Puis moi, je me rappelle des conférences de presse, Dom. Rappelle-toi au printemps 2020, là.
Ah, pas de transfert de personnel.
Ah non, mais c'était la vantardise du nombre de lits qu'on a libérés. C'était la course au nombre de lits parce que tout ce qu'ils voyaient, c'était ce qui se passait en Italie. Et eux autres, ce qu'ils pensaient, là, c'est ils disent nos hôpitaux sont déjà tellement fragiles, s'il faut qu'il arrive une vague comme il est arrivé en Italie, c'est le système au complet qui va péter aux frettes. Oui. Et là, c'était la course à « Hey, j'ai libéré 1000 lits, j'ai libéré 1500 lits. » Oui, mais ce monde-là n'a pas disparu, là.
Ils se sont ramassés en CHSLD. Il y en a là-dedans porteurs de la COVID-19. Puis on a continué de transférer du personnel.
Hey, parce on ne les testait pas quand ils arrivaient.
Mais non, puis il y a une affaire. Ça, là, c'est épouvantable. Le gouvernement le ministère n'a jamais pensé qu'il y aurait des problèmes causés par l'absence de personnel qui allait pogner la COVID. Ils n'ont jamais pensé à ça.
Puis ça, c'est sans compter les désertions.
Ils n'ont jamais pensé à ça.
Puis c'est sans compter les désertions.
Oui, mais tu sais, désertion, c'est une chose, là. Mais ils n'ont pas pensé que, ben oui, on a des infirmières qui vont pogner la COVID puis qui ne seront pas là pendant deux semaines. Fait que là, pendant ce temps-là, on fait quoi?
Hey, tu te retrouvais dans des places au Québec, là, puis je dis pas que c'est le cas ici, là, mais tu te retrouvais dans des places au Québec, là, où il n'y avait pas de boss. Le personnel se sauvait. Tu étais rempli de nouveaux patients qui ont besoin de soins.
Oui.
Tu n'avais pas d'équipement.
Oui. Puis tu continuais de prendre tes infirmières qui travaillent dans des zones chaudes de l'hôpital puis de les envoyer en CHSLD sans test.
Puis, rappelle-toi...
La même journée.
Il y a des gens de la santé qui nous appelaient puis qui nous disaient, là, c'est le fun, là, on a libéré des lits puis tout, là, mais actuellement, à l'hôpital, il n'y a pas un chat. Oui. Vous avez besoin d'aller à l'urgence, c'est là.
C'est exactement
ça. Il n'y avait plus rien dans les couloirs d'urgence. Puis là, je parle pas de Maisonneuve Rosemont qui, eux ont eu des éclosions et autres. Là.
Ouais.
Mais je te parle de d'autres. Tu sais, il n'y a pas rien qu'un hôpital au Québec. Là.
Non.
Il y a des places là, où c'était vide. Là.
C'est les criquets. Des places que c'était ça. Là. 7h46, nouvelle dans quelques minutes.
Le show du matin. On revient dans quelques minutes. 95.7 Kick Saguenay.